Il est 1h17 du matin, au cœur de la médina de Marrakech, au riad d'Armimi, tout est complètement silencieux. Pourtant, dans les couloirs un peu obscurs, t'as Latifa, la gouvernante, qui cherche quelqu'un. Elle cherche un certain Arthur.
Ah oui, le fameux Arthur.
Exactement, parce que depuis des semaines, cet Arthur gère les arrivées tardives, il répond aux clients en anglais, en français, et même avec de superbes expressions en darija. Il est tellement fluide que Latifa est persuadée qu'un nouveau réceptionniste travaille de nuit.
Sauf que il n'a pas de corps.
Voilà, c'est une intelligence artificielle, elle a été créée par Yacine, le propriétaire Voactifleur, pour gérer toute la logistique nocturne et lui permettre enfin de dormir. Et bienvenue à tous les esprits curieux qui nous écoutent pour cette nouvelle exploration approfondie.
Ouais, c'est une scène qui, en fait, résume parfaitement notre époque. Cette idée que la vigilance est devenue une fonction totalement automatisable, on délègue carrément notre conscience nocturne à des lignes de code.
Et c'est vraiment le fil rouge de notre plongée d'aujourd'hui qu'on a construite à partir du numéro d'avril 2026 de l'ODJ IMAG. On va parler de cette friction fascinante. D'un côté, une hypermodernité qui s'accélère à fond, genre l'IA, l'ultra-connectivité, la médecine de pointe.
Et de l'autre côté, nos besoins humains les plus primaires, quoi. Le sommeil, la santé, le lien social, les traditions.
C'est ça. Parce que l'ironie absolue de l'histoire d'Arthur, c'est que Yacine a automatisé son riad pour se reposer. Mais collectivement, l'être humain n'a jamais aussi mal dormi, en fait. L'insomnie est devenue une vraie épidémie silencieuse.
Complètement. Les chiffres sont même assez alarmants.
Oui, les données nationales parlent de 30% de la population marocaine qui présente des symptômes d'insomnie. 1 sur 4 en souffre et 1 sur 10 de manière chronique. Et le maintien de l'heure GMT plus 1, franchement, ça n'arrange rien au décalage de notre horloge biologique.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'erreur fondamentale dans la façon dont notre société perçoit le sommeil. Il est presque vu comme un obstacle à la productivité, tu vois. Un temps mort qu'il faudrait réduire au max.
Un bug dans le système capitaliste, en gros.
C'est ça. Or, la mécanique biologique nous prouve exactement l'inverse. La nuit, c'est pas une pause. C'est un atelier de réparation super intensif. C'est pendant le sommeil profond que le cerveau nettoie les toxines, que l'immunité se renforce et que la régulation métabolique se fait.
Et j'imagine qu'en été, c'est pire.
Ah bah oui, cette mécanique est mise à rude épreuve avec la chaleur, la perte de repères pendant les vacances, les changements de matelas.
Ok, analysons ça un instant. Parce qu'il y a un paradoxe énorme. On crée des machines pour travailler à notre place, pour gagner du temps et se reposer. Mais ce temps gagné, on l'utilise pour faire quoi? Pour s'allonger dans le noir et scroller sur nos écrans?
Le fameux doom scrolling, ouais.
Et pour régler les problèmes de sommeil que ce même téléphone crée, on télécharge des applications de Sleep Tech, on traque nos cycles de sommeil. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une boucle d'anxiété infinie là?
Si, totalement. C'est ce qu'on appelle l'orthosomnie. C'est l'obsession d'un sommeil parfait dicté par des stats sur un écran. Le problème, il est purement physiologique. Le cerveau humain n'a pas d'interrupteur on-off. Il a besoin d'un rituel de descente.
De descente?
Ouais, pour entrer en sommeil profond, pas de température corporelle doit baisser et la mélatonine doit arriver. Sauf que la lumière bleue des écrans, elle bloque cette mélatonine. Elle fait croire au cerveau qu'il est midi en plein milieu de la nuit.
Ah oui, forcément.
Et en plus, la charge mentale du défilement maintient ton système nerveux en état d'alerte. On essaye de régler un problème de surstimulation avec encore plus de technologie. Alors que la vraie solution, souvent ignorée par le marketing, c'est juste la literie.
Un bon vieux matelas, quoi.
Exactement. Un matelas qui soutient la colonne sans créer de point de pression, qui dissipe la chaleur, ça fera toujours plus pour le repos qu'un capteur connecté.
Et quand ce mécanisme naturel préventif s'effondre, c'est la santé globale qui vacille. Et c'est là que la médecine entre en jeu. Mais ce qui est dingue dans les articles de ce dossier, c'est que le monde médical vit la même scission que nous.
C'est-à-dire...
Une course vertigineuse vers la haute technologie, mais couplée à un besoin désespéré de proximité humaine. Prenons l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Rabat. Ils ont introduit le PET-CRM, une première au Maroc et en Afrique.
Ah, c'est une technologie incroyable, ça.
Oui, on parle de diagnostic ultra précis pour le cancer ou Alzheimer. Mais pour ceux qui nous écoutent, comment ça marche un PET-CRM par rapport à un scanner normal?
Il faut imaginer ça comme la fusion de deux super-pouvoirs. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, c'est l'architecte. Elle cartographie l'anatomie avec un détail dingue. Mais le PET, la tomographie par émission de positrons, c'est l'espion du métabolisme.
L'espion, c'est joliment dit.
Ouais, en gros, on injecte un traceur, souvent du glucose un peu radioactif, et comme les cellules cancéreuses sont très gourmandes en énergie, elles absorbent ce sucre super vite. Le PET voit cette activité en temps réel.
D'accord, donc l'IRM montre le bâtiment et le PET montre quelles pièces ont la lumière allumée.
Exactement. Ça permet de repérer une anomalie fonctionnelle bien avant qu'une tumeur ne soit physiquement visible, et avec moins de radiation en plus.
C'est carrément de la science-fiction. Et dans le même registre, le magazine parle des pistes d'immunothérapie par voie nasale pour les tumeurs cérébrales. L'idée, c'est de passer par le nez.
Oui, pour contourner la barrière hémato-encéphalique.
Ce fameux filtre qui protège notre cerveau, c'est ça?
C'est ça. Il est tellement efficace qu'il bloque 95% des médicaments qu'on essaie d'envoyer. Le réseau olfactif nasal, lui, offre un passage secret direct vers le système nerveux central. C'est du pur piratage biologique.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que face à ces machines capables de voir la consommation de sucre d'une seule cellule, on a le débat de l'amicale des médecins généralistes de l'Oriental à Saïdia. Ils se demandent si le médecin de proximité est menacé.
L'article utilise l'analogie des supermarchés de la santé face aux petits commerçants.
Voilà. Et je me fais un peu l'avocat du diable, mais si le supermarché a une machine PET-IRM capable de voir à l'intérieur de nos cellules, pourquoi on aurait encore besoin du médecin de quartier?
Parce que la machine lit la cellule, mais elle ne lit pas les non-dits. Les grandes structures traitent la pathologie avec une efficacité industrielle. Mais le généraliste, lui, il connaît ta trajectoire de vie.
L'aspect humain. En somme.
C'est ça, c'est l'intelligence contextuelle. Il sait que tes modestomas sont liés à la perte de ton emploi, par exemple. C'est la différence fondamentale entre traiter un cas clinique et soigner une personne.
C'est vrai. Et il y a aussi le soulagement financier. La gratuité des analyses pour les adhérents de la MGPAP à la Fondation Sheikh Zayed, c'est vital face au coût des soins. Et puis, n'oublions pas les petits alliés du quotidien, mentionnés dans le mag, comme l'importance des oméga-3 ou les bienfaits de l'asperge au printemps.
Exactement. L'hybertechnologie guérit, mais c'est la proximité qui soigne.
Et cette difficulté à trouver l'équilibre entre la machine et l'humain, on la retrouve carrément à l'échelle du pays tout entier. L'État fait face à des mutations structurelles énormes. Le rapport de l'ONI de 2026 prévoit que la population des 15-24 ans au Maroc va chuter de 580 000 personnes d'ici 2050.
On passe de 6,2 à 5,6 millions. C'est un séisme silencieux.
Si l'on relie ça au contexte global, c'est un renversement complet du modèle social, non?
Totalement. Pendant des décennies, le défi de l'État, c'était d'absorber une jeunesse massive sur le marché de l'emploi. Demain, il faudra maintenir une économie dynamique, avec une force de travail qui rétrécit, tout en finançant les retraites d'une population vieillissante.
Et comme si ça suffisait pas, il y a le climat. Le retour brutal d'El Niño en 2026-2027. Ça menace toute l'Afrique du Nord de canicule, de sécheresse sévère.
D'où ce que l'article appelle le blues politique.
C'est fascinant, ça. Les rédacteurs bitrodames électoraux sont perdus. Et on reste totalement impartiaux ici, mais factuellement, comment un parti politique peut-il promettre de la croissance quand l'inflation, la guerre, les chaînes d'approvisionnement et le climat échappent totalement au contrôle de l'État?
C'est la grande question. L'État a été conçu pour gérer la croissance. Là, on lui demande de changer de logiciel en plein vol.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Moi, j'y vois un peu une métaphore. C'est comme essayer de tracer l'itinéraire d'un navire alors que l'océan est en train de s'évaporer. Ou pour reprendre une image terrestre, c'est comme si l'État avait construit une Formule 1 pendant un siècle pour aller super vite sur une route bien droite.
Wow.
Et d'un coup, le climat et la démographie transforment la route en champ de boue. La Formule 1 sert plus à rien, il faut un véhicule tout terrain. Est-ce que la politique aujourd'hui, c'est pas plus de la gestion de crise que de la vision sociale?
Cette image du tout-terrain est parfaite. C'est exactement pour ça qu'on voit l'État injecter 600 000 dirhams dans la recherche agricole pour adopter les semences au climat. On passe de la gestion de la croissance à la gestion de la résilience.
Et la Cour des comptes qui ouvre des enquêtes sur les appels d'offres publics, ça rentre là-dedans?
Complètement. Quand les ressources deviennent rares, le gaspillage de l'argent public n'est plus juste un souci administratif, c'est une menace pour la survie du système.
Mais ces chocs macroéconomiques, les citoyens les vivent de plein fouet au quotidien. Ça frappe directement le portefeuille. On l'a vu avec la flambée des prix de la viande rouge avant l'Aïd al-Adha.
Ah, le débat sur l'origine du mouton. C'est très révélateur.
Oui, l'État importe des moutons d'Espagne, du Brésil ou de Bulgarie pour calmer les prix. Et on observe un rejet culturel massif. Les gens veulent le mouton 100% marocain, de la chaouya ou des sragna. Mais je trouve ça fou. On veut tous le dernier smartphone américain, on veut voyager avec des forfaits globaux, mais pour le mouton, le brésilien, ça passe pas? Pourquoi la cuisine est-elle l'ultime forteresse du patriotisme?
Cela soulève une question super importante sans la psychologie humaine. Dans un monde où tu contrôles plus rien, ni le climat, ni l'inflation, ni les conflits internationaux, tu ressens une anxiété sourde. Les discours officiels, même rassurants, sur les prix des carburants, par exemple, ne suffisent pas à calmer ça.
Donc on s'accroche au terroir.
Exactement. Le rite de l'Aïd, c'est le pilier familial. Exiger un produit du terroir, c'est un mécanisme de réassurance. C'est une façon de dire « le monde est chaotique, mais ce qui nourrit ma famille ce jour-là, ça vient de ma terre ». C'est une réaction identitaire face à une mondialisation qu'on subit.
Et c'est peut-être cette même quête d'ordre qui explique les nouvelles règles super strictes de l'Arabie Saoudite pour le Hajj 2026. Fini l'improvisation, il faut un visa officiel obligatoire. On cherche à structurer face au chaos.
Oui, tout à fait.
Mais face à cette mondialisation subie, le Maroc répond aussi par une mondialisation très stratégique et choisie. On renforce notre souveraineté. L'exemple de Cozumar dans le magazine est top. Ils inaugurent une usine de 500 millions de dirhams à Casa.
Pour produire du gaz carbonique liquide, le LCO2.
C'est ça, à partir de leurs propres émissions de raffinerie. C'est brillant.
C'est de l'économie circulaire à l'état pur. Au lieu de rejeter du CO2 polluant, ils le captent, le liquifient et le revendent pour les boissons gazeuses ou le refroidissement industriel. On vise le pur made in Morocco tout en réduisant l'empreinte carbone.
Une souveraineté qui s'accompagne d'une ouverture mondiale. EasyJet qui ouvre sa première base africaine à Marrakech avec des Airbus et 4 millions de sièges. Et dans un autre genre, l'arrivée de cet opérateur fantôme français, Freemax.
Ah oui, l'offre à environ 30 euros, avec la 5G illimitée au Maroc en roaming, c'est une vraie disruption.
Mais comment c'est possible, sans même avoir une seule antenne sur le sol marocain?
C'est la magie des accords d'itinérance. Ils achètent l'accès aux réseaux locaux en gros et le revendent dans un forfait global. Ça efface littéralement les frontières et ça force les opérateurs locaux à faire évoluer leurs propres offres. Les attentes des consommateurs changent drastiquement.
On voit vraiment un pays qui ne choisit pas entre tradition et modernité, mais qui fait tout cohabiter. C'est flagrant dans la culture aussi. D'un côté, Sa Majesté le Roi nomme le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur de l'état-major général des phares, ce qui ancre fortement le leadership. De l'autre, le prince héritier inaugure le ciel à Rabat, devenue capitale mondiale du livre.
Avec la France comme invité d'honneur, d'ailleurs.
Oui, et c'est là qu'on touche un éveil littéraire paradoxal. On connaît la dure réalité de l'édition classique. Mais au milieu de ça, t'as l'explosion du phénomène BookTok.
L'ironie suprême de notre époque.
Totalement. Des vidéos de 15 secondes sur TikTok qui redonnent le goût de lire des pavés de 400 pages aux jeunes. Et ça me fait penser au poème du mois publié dans le GI Mag, Le bleu et le blanc.
Un très beau texte qui oppose la lumière de l'écran à celle de la page.
C'est ça, la lumière bleue urgente de l'écran contre la lumière blanche et apaisante du livre. Le paradoxe ultime, c'est que ce sont les écrans bleus hyperactifs de TikTok qui ramènent aujourd'hui la jeunesse vers la lumière blanche et lente des livres.
Et toutes ces initiatives, que ce soit Tétouan Sacré Capitale de la Culture Méditerranéenne, le succès du film Kale Malaga de Mariam Touzani, ou même l'art hyperréaliste de Halima Forati, ça montre une société résiliente. On utilise les outils de l'hypermodernité pour préserver notre ancrage.
En fait, quand on regarde l'ensemble de notre voyage d'aujourd'hui, on est parti d'un réceptionniste virtuel qui révèle nos insomnies collectives, on est passé par les défis démographiques et climatiques pour finir sur ce besoin viscéral de se rattacher à un mouton du terroir ou à un bon vieux livre.
C'est une tentative constante de survie au rythme effréné du 21e siècle, en fait.
Ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. On crée des IA parfaites pour gérer notre quotidien. On importe des algorithmes pour nous dire quoi lire. On utilise des gadgets pour mesurer notre rythme cardiaque la nuit.
Ouais.
Mais si la technologie finit un jour par éliminer absolument toutes les frictions de notre vie, qu'est-ce qu'on fera du silence qu'elle va laisser derrière elle ? Est-ce qu'on va enfin réapprendre à se reposer ou est-ce qu'on va simplement inventer de nouvelles façons d'être épuisé?
C'est une excellente question pour conclure, qui donne matière à réflexion.
Merci beaucoup pour votre analyse experte et un grand merci à notre auditoire pour votre temps et votre curiosité. Continuez à interroger le monde qui vous entoure et à très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.